le magazine des Nations Unies.
Plus de 10 millions de personnes dans le monde sont des apatrides. Les phénomènes n'épargnent pas la République démocratique du Congo, notamment en faute d'enregistrement des naissances à l'état civil. Pour corriger cet état de choses, avec l'appui du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le gouvernement congolais avait mis en place le comité technique de lutte contre l'apatridie, cet élan en sigle. Vous suivrez dans cette édition Christian Makambo Moigno, expert au sein de cet organisme interministériel. Dans cette édition, nous irons au Maghreb, précisément au Maroc, où une vingtaine de journalistes du continent africain ont été formés sur les conséquences de la pêche illicite dans les océans et différents cours d'eau du continent. Une initiative de l'Observatoire des médias pour la pêche durable en Afrique, OMPEDA, qui intéresse au plus haut point la FAO et le Programme des Nations Unies pour le développement. L'invitée dans ce magazine, c'est Monique Cathy Daniel. Elle est administratrice chargée de protection au HCR sous délégation de Kalemie dans la province du Tanganyika. Telles sont les grandes articulations de ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. L'apatridie est réelle dans le monde et en RDC. Le phénomène est même aggravé, notamment par les lois de la République et la non-déclaration des naissances à l'état civil. Déclaration de Christian Makambo Moigno, expert au comité technique de lutte contre l'apatridie. C'était là une structure gouvernementale partenaire de l'UNICEF et du HCR. Il l'a dit lors d'un déjeuner de presse organisé mercredi 4 mai à Kinshasa par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Les propos de l'expert du C'était là recueillis par Honoré.
L'apatridie, c'est la situation d'une personne qui se retrouve sans nationalité. Tout celui qui n'a pas de nationalité est un apatride.
Comment on peut ne pas avoir une nationalité alors qu'on est quelque part sur un lieu déterminé, des parents donnés?
C'est une très bonne question. En principe, la nationalité est un droit de l'homme. On doit l'avoir dès sa naissance. Mais il s'avère malheureusement que dans le monde, plus de 10 millions de personnes se retrouvent dans la situation où ils se retrouvent sans nationalité. Et la RDC n'est pas épargnée. La RDC compte naturellement plusieurs cas de personnes apatrides. L'apatridie peut être due surtout au non-enregistrement des naissances à l'état civil. Au fait, dès qu'un enfant naît, les parents sont dans l'obligation, en vertu de l'article 16 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, d'enregistrer cet enfant. C'est une obligation. L'enregistrement à l'état civil permet à un enfant qui est enregistré d'exister juridiquement et que l'État prend acte de son existence. Alors, un enfant qui n'est pas enregistré est un invisible. Il n'existe pas parce qu'une personne physique est représentée par un acte administratif. Dans le cas d'espèce, c'est l'acte de naissance. Alors, dès lors que quelqu'un ne sait pas prouver d'abord qu'il existe juridiquement, comment sera-t-il en mesure de prouver qu'il a une nationalité? C'est l'article 7 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise qui dit que pour qu'un enfant ait la nationalité congolaise, il faut que sa filiation soit établie pendant sa minorité. C'est la loi qui le dit, lisez la loi. Vous vous rendez compte vous-même que nos propres lois ouvre la brèche de l'apatridie en RDC. C'est la raison pour laquelle, vu ce risque élevé d'apatridie dans notre pays, les gouvernements, avec l'appui du HCR, avaient mis en place depuis 2019 le comité technique interinstitutionnel contre l'apatridie en RDC pour évidemment accompagner techniquement la RDC dans les processus de la mise en œuvre des engagements souscrits pour éradiquer ces fléaux dans notre pays, évidemment aussi dans la région du Grand Lac, parce que l'apatridie est une réalité vivante dans notre pays.
Parlons développement. Des journalistes africains formés sur les conséquences de la pêche illicite et sur la disponibilité des ressources aquatiques dans les océans, fleuves, rivières et autres cours d'eau du continent. C'est l'Observatoire des médias pour la pêche durable en Afrique, OMPEDA, qui a organisé cette session de renforcement des capacités au bénéfice des professionnels des médias des pays africains de la côte atlantique. Et c'est Agadir, une petite ville du sud-ouest marocain, qui a servi de cadre d'accueil. Tati Mapoukou y a représenté Radio Capi. Explication avant l'ouverture du séminaire.
La pêche et l'aquaculture sont des activités importantes des habitants de plusieurs pays africains. Ces deux secteurs contribuent à la sécurité alimentaire et constituent une source des revenus des millions d'Africains âgés de 15 à 64 ans selon la FAO. Cependant, la pratique de la pêche illicite et la faiblesse de l'application des lois relatives aux périodes de fermeture et d'ouverture de la pêche, y compris la spoliation des zones des frayères, ont une incidence sur la quantité des ressources halieutiques et sur les écosystèmes marins, sur l'ensemble du continent africain. Pour permettre aux journalistes africains de mieux informer l'opinion publique sur les conséquences de la pêche illicite dans les différents cours d'eau, la ville d'Agadir au Maroc va accueillir un séminaire atelier de renforcement des capacités des 25 journalistes des pays affiliés à la conférence interministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains, riverains de l'océan Atlantique et la lutte contre la pêche illicite et non réglementée en Afrique. Soulignons que la RDC possède un accès à l'océan Atlantique grâce à une côte de 39 km de long. Malheureusement, cette zone est sérieusement menacée par la pêche non réglementée, par l'occupation anarchique de ses berges et par l'érosion marine.
Restons encore à Agadir pour écouter cette déclaration de Abdelwahed Benabou, secrétaire exécutif de la conférence interministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Il est au micro de Tati Mapoukou.
C'est ce principe d'exploitation durable des ressources marines où les pays africains ne sont pas toujours bien représentés puisque ce sont les puissances halieutiques qui décident de l'interdiction de telle ou telle espèce. Sachant que pour la pêche artisanale, pour nos pays et particulièrement au niveau de la pêche artisanale, ce sont des pêcheries qui sont de nature vivrière et donc qui représentent un enjeu de sécurité alimentaire. Voilà. Et donc la presse, malheureusement, ne rapporte pas ces états. Et je pense que la presse, elle a de multiples rôles. Notamment le rôle de sensibilisation, le rôle d'encadrement et le rôle d'alerte. Et je pense que quand il y a une problématique qui est traitée au niveau international concernant la pêche, nous constatons l'absence totale des médias africains.
Aucun nouveau cas de la maladie à virus Ebola n'a été confirmé depuis le 1er mai 2022 à Mbandaka, a affirmé le docteur Amédée Dzingwinde, chargé du bureau de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. Il a dit à la conférence de presse des Nations unies mercredi 4 mai à Kinshasa. Depuis la déclaration de la 14e épidémie de la maladie en RDC le 21 avril 2022, le cumul des cas est resté au 1er mai de 2 cas confirmés, une femme et un homme, tous décédés, a indiqué le docteur Dzingwinde, assurant par ailleurs que l'épidémie était sous contrôle. Un extrait de propos du chargé du bureau de l'OMS, sélectionné par Honoré Missinga Kalala et traduit par Alain Rung.
Nous avons actuellement, avec le travail remarquable qui a été fait par les chercheurs congolais, notamment l'INRB, nous avons la médication qui permet en tout cas d'assurer le traitement pour éviter que le malade puisse aller dans les complications. Deuxièmement, il y a la stratégie vaccinale avec le vaccin efficace qui est homologué, qui est également déployé sur le terrain. Et je peux vous assurer que déjà nous sommes à environ 63% de couverture de sujets contacts, environ 288 personnes qui sont vaccinés, aussi bien des contacts que des contacts des contacts, et également aussi le personnel de santé de première ligne pour éviter la propagation de la maladie. Toutes nos équipes travaillent en synergie avec l'ensemble de l'équipe provinciale du ministère de la Santé pour pouvoir endiguer ce phénomène qui, pour le moment, reste sous contrôle.
Il faut noter qu'après la déclaration du docteur Amédée Prosper, un troisième cas confirmé d'Ebola a été enregistré en Mbandaka. Il s'agit d'un contact à haut risque du premier cas décédé le 22 avril. Ce troisième malade est lui vivant et a été admis au centre de traitement d'Ebola. Jeudi dernier, les équipes de riposte ont mené des opérations de décontamination au domicile du dit malade, 48 ans, ainsi qu'à la vaccination d'autres contacts dans le quartier afin de couper la chaîne de contamination. C'est avec l'appui de l'OMS ainsi que de l'UNICEF.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Environ seulement 5% des financements des actions humanitaires passent par les acteurs locaux. Ceux-ci sont souvent préjudiciés par les critères d'éligibilité élaborés par les bailleurs. Conséquence, l'impact de la plupart des projets reste discutable. Il faut donc changer de philosophie. C'est à quoi s'est engagé l'ONG internationale Street Child, qui a organisé à Goma un atelier pour mettre cette question sur la table. Dans cette édition, le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que le directeur régional de Street Child, Jean-Claude Bakwa Baya Mouindou, a accordé à Honoré Missinga Kalala.
Jean-Claude Mouindou, bonjour.
Bonjour, monsieur Honoré.
Street Child organise un atelier sur la localisation dans l'action humanitaire. Cet atelier se fera en deux temps et à deux endroits, Goma le 28 avril et Kinshasa le 5 mai prochain. Avant de parler de ces doubles forums, en gros, c'est quoi Street Child, une ONG des droits de l'homme, une organisation humanitaire, et quelle est sa couverture géographique?
Merci beaucoup pour la question. Street Child, c'est une organisation internationale des droits britanniques. C'est pourquoi nous nous appelons Street Child UK. Alors, nous sommes actifs dans plus de 21 pays au monde, notamment les pays les plus affectés par les conflits multiformes. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Pour la RDC spécifiquement, c'est pratiquement plus de 15 ans que nous sommes actifs en RDC, mais notre approche a toujours été de travailler à travers les ONG dites locales.
Vous êtes en RDC, ça fait 15 ans, mais vous couvrez aussi le Burundi, je vois aussi à la République centrafricaine.
Absolument. Donc, mon rôle hein, en tant que directeur régional pour la région des Grands Lacs, effectivement, donc nous couvrons la RDC, le Rwanda, le Burundi, et depuis un moment aussi la République centrafricaine, où d'ailleurs nous irons pratiquement pour une autre conférence débat, précisément le 15 mai.
Venons-en maintenant à l'atelier lui-même. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par la localisation dans l'action humanitaire?
Alors, la localisation dans l'action humanitaire, c'est un concept émergent qui vient pratiquement de ce qu'on appelle aujourd'hui les grands baguennes. Donc, les résultats du plus grand sommet humanitaire mondial qui a eu lieu à Istanbul en 2016, qui a réuni certains des grands bailleurs humanitaires, certains membres des gouvernements donateurs, les ONG internationales, en tout cas les plus connues, hein, les agences des Nations Unies. La clé de voûte autour de leur discussion dans les sommets, c'était comment nous assurer qu'il y a beaucoup plus de financement entre les mains des plus vulnérables, c'est-à-dire de ceux qui sont véritablement sur terrain. Et ça, c'était donc une recommandation du groupe de travail de ce sommet-là, qui se sont engagés collectivement, que désormais, il faut qu'au minimum, autour de 25% des financements humanitaires soient entre les mains de ces acteurs locaux qui sont les premiers sur terrain. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'impact dans les actions humanitaires, ça reste un tout petit peu discutable. Maintenant, là, la décision a été prise que non, c'était vraiment un engagement. Il faut absolument essayer un peu de créer ce paradigme où il y aura beaucoup plus de financement entre les mains de ces ONG. Parce que lorsqu'il y a des crises humanitaires, elles sont parfois les premières sur le front. Et nous, les grandes ONG, nous venons parfois avec retard, 2 mois après, 3 mois après, 6 mois après. Mais si vraiment on doit sauver les vies, c'est immédiatement. Et ceux qui sont dans les communautés, ceux qui sont tissus des communautés, sont, à mon avis, les mieux indiqués pour commencer à aider, peut-être même à élargir l'action humanitaire dans des zones où les internationales ne peuvent pas nécessairement arriver.
Donc, l'idée, c'est que pour qu'il y ait plus d'impact des actions humanitaires, il faut impliquer les acteurs locaux.
Absolument, absolument. On ne dit pas que les ONG internationales n'ont pas d'impact, mais on aura beaucoup plus d'impact si nous essayons d'arrondir nos angles en renforçant les capacités des acteurs locaux, de sorte qu'elles soient en mesure d'aller plus loin que nous. Parce que naturellement, elles peuvent aller plus loin que nous. Elles sont plus acceptées dans les communautés que les grandes ONG, parce qu'elles sont naturellement issues des communautés.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les objectifs que se fixe votre ONG en organisant cet atelier?
C'est une activité d'un projet triennal de Street Child, qui est l'un des leaders radicaux dans la localisation. Pourquoi ça? Parce que avec beaucoup d'autres organisations, il y a quand même une sorte de prise de conscience qu'on doit changer les choses, parce que voilà, ça fait maintenant pratiquement 6 ans depuis ce sommet dont j'ai évoqué. Nos évaluations qui nous ont poussés à développer ces grands projets nous ont montré que malgré les engagements, malgré les bonnes intentions, en réalité, la communauté humanitaire n'a pas avancé dans la localisation. Notre évaluation nous a montré que 99% des propositions des projets qui sont soumis au bailleur et même acceptés mentionnent le mot localisation. Disent nous appuyons les acteurs locaux. Mais en réalité, dans la pratique, c'est pas vraiment ce qui se passe. Parce qu'on a à peine démontré que seulement 5% des financements entrent ou touchent ou arrivent entre les mains de ces acteurs qui sont véritablement au front plus que les acteurs internationaux. Et du coup, si pendant 6 ans, c'est difficile d'arriver à 20-25%, non, il faut un réveil sérieux, il faut une prise de conscience. Et donc, c'est autour de ça, maintenant, que cette activité veut réunir encore et mettre ensemble tous ses partenaires, rediscuter de la question, parce que nous venions déjà de réaliser un travail de fond sur le diagnostic institutionnel de plus de 40 organisations locales, dont 20 en RDC, où nous avons d'une façon plus détaillée, toucher tous les aspects organisationnels qui feront qu'une organisation soit véritablement appelée une organisation forte. Nous avons identifié des faiblesses, nous nous sommes donc même approchés des ONG internationales pour comprendre quels sont les goulots d'étranglement. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à décoller dans ces secteurs? Alors, cet atelier donc veut remettre encore la question sur la table pour que nous nous questionnions maintenant sur l'après. Que devrions-nous faire collectivement pour commencer quand même à avoir des résultats dans ce sens, avoir des ONG locales qui commencent à accéder librement au financement sans nécessairement avoir à être conditionnés par des critères qui sont parfois rendus hyper compliqués pour eux parce que naturellement étiquetés à faible capacité. C'est autour de ça que nous aimerions réunir tout le monde et rediscuter, dire que devrions-nous faire, de sorte que d'ici quelques années, nous soyons en mesure de dire, voilà, il est possible de faire confiance à ces ONG nationales lorsqu'elles sont formées, lorsqu'elles sont capacitées en tant qu'institution. Elles peuvent amener nos actions beaucoup plus loin que lorsque nous essayons de les faire nous-mêmes.
Oui, alors maintenant, après ces discussions à Goma, quelle va être la prochaine étape?
Cette conférence clôture la première phase, qui a donc consisté en ce diagnostic approfondi, où on a fait des sautes analyses, on est vraiment allé plus loin. Maintenant, la prochaine étape, qui va s'étendre sur deux, même plusieurs années, c'est que nous allons travailler avec ces ONG locales pour développer les ODI. ODI, c'est quoi? Organizational Development, donc développement organisationnel, ou alors plan d'amélioration des performances, qui va donc nous permettre de commencer à les construire avec le temps dans ce que nous appelons partenariat localisant. C'est-à-dire, nous co-développons avec eux des programmes, des projets, nous les aidons à comprendre comment nous faisons, comment les autres font, qu'est-ce qui plaît aux bailleurs. Au même moment, nous poussons les plaidoyers avec les bailleurs pour qu'il y ait de plus en plus des critères de l'éligibilité des ONG nationales au financement soient revus pour qu'elles aient aussi un peu d'accès ou plus d'accès qu'auparavant.
Jean-Claude Mouindo, merci.
En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour ce temps.
Nos nouvelles en plus bref, commençons par le volet sécuritaire. Processus de Nairobi, les Nations Unies saluent l'orientation donnée à ce processus qu'elles considèrent comme une consultation inclusive avec les groupes armés pour identifier les mesures d'accompagnement nécessaires à leur désarmement volontaire. Nous exhortons tous les groupes armés à participer inconditionnellement au processus, à cesser immédiatement toutes les hostilités, à désarmer volontairement et à rejoindre de bonne foi le processus national PDDRCS, a déclaré mercredi le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Schillmann, au cours de la conférence de presse des Nations Unies. La Journée mondiale de la liberté de la presse est le 3 mai. Comme chaque année depuis 1993, plusieurs manifestations ont été organisées sur la planète. Dans son message de cette année, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a notamment souligné, je cite, « Les professionnels des médias travaillant dans les zones de guerre sont menacés non seulement par les bombes et les balles, mais aussi par les armes de la falsification et de la désinformation qui accompagnent la guerre moderne. » Fin de citation. Enfin, un tour en Ituri. La problématique de la paix et de la sécurité pour tous a été au centre d'une rencontre le 26 avril dernier entre l'évêque de Bounia, Mgr Ouringi, et une délégation des casques bleus de la MONUSCO. Cette rencontre a permis aux deux parties de dégager une identité de vue sur la nécessité de sensibiliser les populations de la région à la cohabitation pacifique et à la culture de la paix.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies vous propose ce dimanche comme invité Monique Cathy Daniel, administratrice chargée de protection au HCR sous délégation des Kalemi dans le Tanganyika. L'entretien tourne autour de l'atelier de formation portant sur la protection de l'enfant dont la clôture a eu lieu cette semaine. Monique Cathy Daniel répond aux questions de Jean Gando.
Monique Cathy Daniel, bonjour.
Bonjour.
Mais qu'est-ce qui explique l'organisation de cet atelier qui porte sur protection de l'enfant?
Le HCR a non seulement les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées internes, les rapatriés et toutes les personnes à risque d'apatridie comme personnes relevant de sa compétence. Et dans toutes ces ces catégories de personnes, nous avons les enfants. Et il a été prouvé que à travers le monde, la population d'enfants réfugiés représente à peu près 51%. Dans notre zone d'opération, ils sont autour de 52%. Un peu au-dessus de la moyenne mondiale. Donc, il s'agit là de mettre un accent sur la protection de cette catégorie de personnes qui est souvent laissée pour compte, parce qu'on dit on a protégé le papa, on pense par ricochet qu'on a protégé l'enfant, alors que ce n'est pas vrai. L'enfant est un être humain vraiment dans le sens clair du terme, qui a en cela ses droits qui lui sont propres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il était important qu'on puisse le rappeler.
Pourquoi mettre l'accent sur la protection de l'enfant quand on sait que ce qui touche à l'enfant est très complexe en fait?
C'est justement pour rappeler aux parents que le fait de protéger le parent ne protège pas forcément les enfants, parce que nous avons les enfants abandonnés, nous avons les enfants à risque de négligence, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas les actes de naissance. Tous ces enfants-là sont des enfants à risque pour lesquels il faut pouvoir adresser la problématique de leur protection, parce que ce sont des risques graves à leurs droits, les droits qui sont consacrés par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant.
Et les enfants dont vous parlez, ce sont les enfants qui sont dans des maisons ou ceux-là qui se trouvent abandonnés par leur famille et qui errent ça et là?
La protection que nous avons mise en avant ici, il s'agit de la protection des enfants à risque de négligence, d'exploitation, d'abus et ayant été victimes de toute autre violation de leurs droits. C'est-à-dire qu'on a les enfants réfugiés qui sont arrivés avec un seul parent. On les appelle les enfants séparés. Il y a les enfants qui sont arrivés sans aucun parent. On les appelle les enfants non accompagnés. Et lorsqu'on a soit les enfants séparés, soit les enfants non accompagnés, et toutes les autres catégories d'enfants qui sont à risque de protection, sont des enfants pour lesquels il faut pouvoir déterminer leur intérêt supérieur. Parce que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quelque chose de primordial. Et cela est rappelé dans la loi congolaise portant protection de l'enfant, que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris au sens premier, vraiment comme un élément primordial chaque fois qu'il y va de la protection de l'enfant. Lorsqu'on parle de la protection de l'enfant, il faut se rassurer que son intérêt supérieur est garanti.
Et comment protéger un enfant?
Alors, on protège un enfant en s'assurant qu'il a accès à tous les services sociaux de base. Les services sociaux de base s'entendant par l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, l'accès à une identité, c'est repris dans la loi, c'est repris dans la convention. Que l'enfant peut jouir de son développement normal, que l'enfant peut avoir accès au jeu, parce que tout cela participe de son développement et de son épanouissement. Que l'enfant a droit à la parole, que l'enfant a son mot à dire dans toutes les décisions qui pourront avoir une incidence sur sa vie. C'est aussi ça. Et que toutes les activités qui sont menées concourent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, le principe de non-discrimination, que rien ne soit fait pour que l'enfant soit victime de nuisance. Donc il y a un autre principe fondamental qui est le principe de ne pas nuire. Il y a le principe de développement et suivi pour l'enfant. Donc, il doit avoir être dans un environnement sûr, lui permettant un développement et un épanouissement harmonieux. L'enfant doit participer. La participation, c'est qu'on donne la parole à l'enfant, qu'on l'écoute, qu'on prend le temps de collecter tout ce qui sort de sa pensée, de sa tête.
Monica T. Gagnon, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Le PNUD s'investit dans le projet de développement du village Kamuina Sampou au Kasaï central. Le 21 avril dernier, l'agence onusienne a même organisé sur place une séance de renforcement des capacités sur la communication pour le développement et la documentation des résultats du projet Paix, Justice, Reconstruction et Réconciliation, page en sigle. D'autres détails sur cette activité avec Aubin Abedi.
Le village Kamuina Sampou est une entité du groupement des Bajila Kasanga dans le secteur de Dibataï, territoire de Dibaya. La séance de renforcement des capacités organisée par le PNUD a ciblé chefs coutumiers, femmes et jeunes de cette contrée. Clarisse Moussemé, chargée des communications du PNUD RDC, et Idelphonse Cassio, expert en relèvement communautaire de la même agence onusienne, en ont été les principaux animateurs. Dans sa communication, Clarisse Moussemé a tenu à rappeler aux participants que la philosophie pour le programme des Nations Unies pour le développement, c'est d'aider les populations locales à pouvoir développer leurs propres capacités et à se développer elles-mêmes. Le PNUD travaille sur l'être humain, il travaille sur les femmes, les hommes et les jeunes. Parce que nous sommes basés sur le développement mental qui est le déclencheur du développement général, a notamment souligné le chargé des communications Clarisse Moussemé. Du côté du bénéficiaire du projet Pajour, plusieurs témoignages ont été donnés. Cas de Véronique Mukomamamba, qui, après avoir fui la guerre, a réussi à se faire un champ à travers une mutuelle de solidarité créée dans le cadre du projet Pajour. Il s'y est de souligner que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a eu à exécuter, dès 2018 à 2021, les projets paix, justice, réconciliation et reconstruction Pajour dans le territoire de Dibaya. Un projet qui a contribué notamment à la cohésion sociale et au relèvement économique des contrées ciblées.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
La MONUSCO applique-t-elle le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies? Le porte-parole de la mission, Matthias Schillmann, a répondu à cette question lors de la conférence de presse des Nations Unies.
Vous avez tout à fait le droit d'avoir votre opinion sur ce qui a été appliqué ou pas, mais nous sommes clairement sous le chapitre 7 et nous réagissons du mieux qu'on peut. En tout cas, c'est notre devoir. Peut-être que parfois ça ne s'est pas produit, mais c'est notre devoir et c'est notre responsabilité d'intervenir quand il y a des menaces directes sur une population civile. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous essayons de faire au mieux, sachant encore une fois que nous travaillons dans des zones où la présence de l'autorité de l'État est extrêmement faible, les infrastructures sont extrêmement faibles. Donc il arrive effectivement qu'on arrive trop tard. Mais nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être le plus agile possible et nous intervenons de manière robuste aux côtés de votre armée et nous rentrons en confrontation directe avec les groupes armés. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la CODECO, c'est également avec les ADF. Vous savez, nous avons perdu un casque bleu il y a 2 semaines. Nous avons en tout 400 membres du personnel qui sont morts au Congo au service de la paix. Et donc je pense que s'il doit y avoir une preuve du fait que nous sommes effectivement engagé de manière résolue et active contre les groupes armés en faveur de la protection de la population, c'est ce chiffre terrible qui fait de la République démocratique du Congo un des pays où le plus de casques bleus sont morts.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Retenez ces deux dates dans vos agendas, 12 mai, Journée internationale de la santé des végétaux et 15 mai, Journée internationale des familles. Et c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site www.radiocapi.net, Radio Capi en un seul mot. Merci de votre attention. Merci également à Sylvain Matundu qui en a assuré la coordination technique. Moi, c'est Babel Pongo-Massimango. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga-Kalala. Restez toujours à l'écoute de la Radio de la Paix pour la suite de nos programmes. Toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.